Le premier bus électrique du territoire est entré en circulation. Ce matin, il va servir au transport des employés de Prony Resources. Victime des émeutes et de multiples incendies, la salle Anéoui va être déconstruite. Un morceau de l'histoire sportive et un morceau de l'histoire d'un quartier de Nouméa va disparaître. En métropole, une lycéenne de 15 ans tuée dans l'accident de son car scolaire. Le conducteur était sous l'usage de stupéfiants. Aux États-Unis, un hélicoptère militaire percute un avion de ligne au-dessus de Washington. Aucun survivant. Le drame s'est déroulé sous les yeux des contrôleurs aériens. Et puis en sport du handball, et les Français out au Mondial. Les Bleus ont été sortis par la Croatie après avoir raté leur match. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le magazine Transparence fait sa rentrée après plusieurs semaines de pause. Elisabeth Noir, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et pour cette émission de rentrée, vous recevrez le haut-commissaire.
Et oui, c'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui sera ce midi l'invité du premier magazine Transparence de l'année 2025. Nous l'interrogerons essentiellement sur l'ordre public et sur la sécurité, 8 mois après les violences insurrectionnelles. Quelle est la situation? Quels sont les effectifs des forces de l'ordre? Y a-t-il des inquiétudes pour les prochaines semaines ou les prochains mois? On se retrouve d'ici une demi-heure pour en parler en compagnie de Louis Lefranc. Ce sera juste après votre journal.
Et on vous retrouve évidemment à 16h45 pour le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Et beaucoup de sujets encore une fois pour ce Club Politique. Au sommaire, le 44e congrès du FLNKS et aussi la présentation de sa délégation pour les discussions bilatérales. Nous reviendrons également sur ces discussions bilatérales qui débutent dans quelques jours à Paris et sur ce qu'il faut en attendre. Et puis nous évoquerons l'Azerbaïdjan et les différentes réactions que suscitent les ingérences de ce pays. Nous reviendrons enfin sur la décision de la Cour de cassation de dépayser l'information judiciaire sur les émeutes. Une actualité dense une fois encore pour ce club politique, le deuxième de l'année, qui débute cet après-midi à 16h45.
La transition énergétique se poursuit en Nouvelle-Calédonie. Ce matin, c'était le lancement officiel du premier bus électrique sur le territoire, Lionel Sabot.
Oui, une révolution technologique et environnementale pour le territoire qui s'inscrit dans le cadre du schéma pour la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Un schéma qui prévoit, entre autres, une réduction de 70% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2035. Ce bus 100% électrique, c'est une initiative privée du groupe Arc-en-Ciel, un bus qui servira au transport des employés de Prony Resources, entre Nouméa et Prony, mais aussi en intracite à Goro. Franck Monod, directeur général adjoint d'Arc-en-Ciel.
C'est une acquisition que nous avons faite donc privée. Hein. C'est beaucoup de spécificités. Hein. Nous avons tenu compte de toutes les demandes de Prony Resources. C'est un bus qui ne comporte que des places assises, qui a une climatisation suffisante. Donc l'autonomie lui permet de faire 330 km. Il y a 80 km de trajet, donc c'est largement suffisant. Alors il y a une borne qui est sur le site. Nous avons une borne, bien sûr, ici à Nouméa. Et normalement, c'est largement suffisant pour faire les recharges. À l'achat, hein, c'est un bus qui est quand même beaucoup plus onéreux qu'un bus thermique. Par contre, en entretien, c'est quasi nul. Hein, il n'y a plus de révision, il n'y a plus de fluide sale, il n'y a plus de carburant. Il y a beaucoup moins de pièces mécaniques, donc beaucoup moins de pièces d'usure. Et sur le long terme, ne serait-ce que grâce à la consommation diminuée par 3, eh ben l'investissement s'avère avantageux.
Ce bus 100% électrique est donc arrivé sur le territoire grâce à une initiative privée dans le cadre de la transition énergétique, soutenue bien évidemment par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une filière prioritaire, comme l'explique Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de la transition énergétique.
La transition énergétique, c'est vraiment une filière prioritaire qu'on souhaite soutenir maintenant depuis plusieurs années. On a eu une belle évolution sur la question des énergies renouvelables. On a la partie mobilité qui est un axe du schéma pour la transition énergétique avec l'horizon 2035, 50% des ventes qui devront être en véhicules électriques ou propres puisque les technologies, elles évoluent. Donc oui, on sera là pour soutenir, mais c'est bien que l'investissement privé prenne le relais. C'est-à-dire que financer des filières ad vitam aeternam avec des fonds publics, on n'est plus dans cet état d'esprit. On finance des filières qui sont rentables pour la nouvelle
soutenu par le gouvernement et accompagné par l'Agence calédonienne de l'énergie. Ce bus a de nombreux avantages en termes de coûts déjà, comme le disait Franck Monod, le directeur général adjoint d'Arc-en-Ciel, mais pas que. Les détails de Jean-Christophe Rigouel, c'est le directeur adjoint de l'Agence calédonienne de l'énergie.
Des avantages à la fois au niveau de l'acoustique, mais aussi au niveau de la pollution, puisque quand on est derrière un bus électrique, on a zéro pollution, puisqu'il n'y a pas d'émission de CO2, il n'y a pas de bruit. Voilà, et donc c'est tous les avantages du bus qu'on va pouvoir enfin vérifier, notamment les économies aussi financières par rapport à la recharge, c'est-à-dire versus énergie thermique, essence gasoil versus énergie électrique. On est à peu près à 50% de moins de baisse d'émissions de CO2 entre le thermique et l'électrique, parce que le bus électrique, ce qu'il faut voir aussi dans la ville, c'est l'acoustique. bus électrique, c'est pas de bruit. Tous les bus thermiques rejettent de la chaleur à travers leur circulation. Un bus électrique, non. Donc tout ça, c'est des avantages qu'il faut prendre en compte dans la ville de demain.
Des propos recueillis ce matin par Léo Fichou. Notez que ce bus 100% électrique est le premier en Nouvelle-Calédonie. Est aussi le premier bus de la marque Iveco qui circule hors d'Europe.
Le BTP à l'arrêt. Après les nombreuses destructions d'entreprises et de bâtiments publics, le secteur connaît une crise très importante et nous en avons parlé ce matin avec Benoît Meunier, le président de l'AFC-BTP, qui était notre invité à 7h30, Nicolas.
Oui, il avait tiré la sonnette d'alarme en novembre dernier, estimant qu'une entreprise sur deux pourrait fermer au cours du premier trimestre de cette année. Il demandait de la visibilité à l'État pour lancer la reconstruction des bâtiments victimes des violences débutées le 13 mai. Mais depuis, la situation n'a pas évolué favorablement et les entreprises souffrent de plus en plus. Écoutez Benoît Meunier.
La situation ne cesse de se dégrader. Les chiffres sont alarmants. On a fait un récent sondage auprès de nos adhérents. Il y a 3/4 des entreprises qui ont perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires en 2024. 40% des entreprises ont que un mois de visibilité. Et 3/4 des entreprises prévoient de réduire de 40% leur personnel. Et il faut savoir qu'un plan de licenciement, ça prend 5 mois pour arriver au bout. Et donc les plans de licenciement ont été lancés en novembre. Avec l'annonce de la fin du chômage partiel. Et faute de visibilité, ces plans de licenciement vont aller jusqu'au bout. Et donc, il y a bien, oui, des entreprises qui vont fermer et beaucoup d'entreprises vont diminuer drastiquement leur personnel avec les difficultés qu'on connaît, que le chômage total connaît. Ça va être une catastrophe sociale.
Et depuis le mois de novembre, le message ne change pas pour les chefs d'entreprise du BTP.
Et avant tout, c'est de la visibilité. On a eu beaucoup d'annonces, mais comme on l'avait demandé en novembre, les annonces, ça ne suffit pas. Il faut que maintenant, il y ait du concret. On demande que la loi de finances métropolitaine soit votée pour qu'il y ait effectivement les 27 milliards qui arrivent jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et puis que, à ce moment-là, les études pourront commencer pour la reconstruction des bâtiments publics. Et donc, ça va prendre... 6 mois, il n'y aura pas de reconstruction avant 9 mois minimum.
Parce qu'il y a tout un processus, c'est pas parce que l'argent arrive que ça va repartir tout de suite.
Les collectivités ont envoyé la liste des bâtiments qu'ils souhaitaient reconstruire à l'État en novembre. Et maintenant, on attend la confirmation de l'État de ce qu'ils vont financer pour la reconstruction. On est très inquiet des délais. On ne voit pas de signes positifs d'accélération. Au contraire, tout ce qu'on avait annoncé qui risquait de se passer se passe actuellement.
Et signalons qu'avec la mise en place du gouvernement Bayrou, les réunions hebdomadaires doivent reprendre le mois prochain entre les représentants du monde économique calédonien et les fonctionnaires de l'État afin d'évoquer la relance de l'économie.
Et puis c'est un morceau de l'histoire sportive de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi un morceau de l'histoire d'un quartier de Nouméa qui va bientôt disparaître. À la suite des émeutes du mois de mai 2024, la salle François-Anéoui de la Vallée du Tir va bientôt être déconstruite, Lionel.
Ah oui, construite pour les Jeux du Pacifique, c'était en 2011 à Nouméa. La salle François-Anéoui était devenu le symbole de l'entrée ou de la sortie de la ville. Son style architectural si particulier faisait de cette salle de sport un endroit unique, une salle qui va donc disparaître dans les semaines qui viennent. Incendiée 31 fois, j'ai bien dit 31 fois, lors de la période des émeutes, la salle François-Anéoui a été fortement endommagée et la ville de Nouméa n'a pas d'autre choix que de déconstruire cette infrastructure. Alain Bouffenet, chez le directeur de la vie citoyenne éducative et sportive à la ville de Nouméa.
Le parti architectural qui avait été pris à l'époque, c'était de faire comme les demi-lunes américaines. Mmh. Et donc, c'est des arches en bois qui tiennent toute la structure. Et au pied de ces arches, les incendies ont grandement endommagé et fragilisé la structure. Au-delà de ça, la salle a été complètement saccagée. Les vestiaires, les sanitaires, tout a été cassé. Toutes les portes, toutes les garde-corps des tribunes, les feux ont pris sous les tribunes aussi. Et donc, le béton a été fragilisé. On est, pour des raisons de sécurité, obligé de déconstruire cette salle.
La ville qui n'a d'autre choix donc que de déconstruire totalement la salle, une réhabilitation n'étant pas possible pour des raisons de coût, explique encore Alain Bouffenèche.
Le plus gros problème dans ces dégradations, c'est la suie. Quand on a un incendie qui se fait en vase clos, donc dans une salle, la suie est humide, pleine de produits toxiques. Et donc tous les métaux qui ont été touchés par cette suie-là, donc toute la surface et même les autres surfaces bétonnées, ont été endommagés. Donc pour refaire cette salle-là, il aurait été, par exemple, nécessaire d'enlever chacun des éléments de la salle de le traiter et puis de le remettre. Donc au final, le coût aurait été trop exorbitant.
La salle Fonsonnet, oui, était une salle de sport, bien évidemment, mais pas seulement. Elle accueillait aussi, lors des cyclones, les populations, et notamment les populations des squats, ne se sentant plus en sécurité. Bref, c'est un véritable outil au service des populations qui va disparaître. Un véritable gâchis pour Alain Bouffnech, qui connaissait bien cette salle.
Ça fait mal parce que moi, ça fait 15 ans que je suis en mairie et je suis arrivé quand elle a commencé à être construite, cette salle. On l'a rendue le plus accessible possible. Hein. C'était ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Si on construit ces équipements-là, c'est pour le bien de tous. Elle était encore une fois utilisée 7 jours sur 7. On accueillait les clubs de futsal, de basket, de volley, de badminton, en toutes les disciplines. Tout le monde pouvait venir pratiquer son sport dans de super conditions. Perdre cet outil-là, c'est perdre un peu l'âme sportif à Nouméa, mais dans le sport, on ne baisse pas les bras et on continuera d'avancer. Mais c'est du gâchis.
La salle François Anéoui ne sera donc plus bientôt qu'une dalle de béton à la vallée du Tir. Sa déconstruction devrait commencer dans les prochaines semaines. La ville vient en effet de lancer les appels d'offres pour sa déconstruction.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 71% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la chambre d'accusation de la Cour de cassation a eu raison de dépayser à Paris l'information judiciaire sur les émeutes du mois de mai. Ils sont 29% à penser qu'elle n'a pas eu raison. Voici notre question du jour. François Bayrou, a-t-il eu raison selon vous d'employer la formule « submersion migratoire » Si vous pensez qu'il a eu raison d'employer cette formule, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. L'actualité dans la région et une semaine de deuil national a été décrétée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pays va rendre hommage à l'un des premiers ministres emblématiques du pays qui vient de disparaître. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Sir Julius Chan s'est éteint hier à l'âge de 85 ans. Considéré comme l'un des pères fondateurs de la nation papou, il en avait été son premier ministre des Finances et son second premier ministre après avoir succédé à Sir Michael Somare. Il avait à nouveau dirigé le pays d'août 1994 à mars 1997. Depuis 2007, Sir Julius était aussi gouverneur de la province insulaire de Nouvelle-Irlande où il est né. Annonçant son décès au Parlement, l'actuel chef de gouvernement, James Marape, a indiqué que le défunt, je cite, « était le père de notre économie moderne ». Il a également décrété une semaine de deuil national afin d'honorer sa mémoire. Des funérailles nationales lui seront accordées à une date qui n'a pas encore été fixée. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il sera 11h44 dans quelques secondes. Une pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits, des viandes savoureuses sans conservateur, un goût authentique et naturel. L'excellence au cœur de votre assiette, Boucherie Bobby, 56 rue Gerbolino à Magenta, 28 28 33.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole et François Bayrou va-t-il subir le même sort que Michel Barnier? La commission mixte paritaire qui regroupe 7 sénateurs et 7 députés et qui est chargée d'étudier le budget n'a pas trouvé d'accord et doit reprendre ses travaux la nuit prochaine pour nous. S'il a recours, ce qui est fort probable, au 49-3, lors du vote du budget, le Premier ministre sera confronté à une motion de censure. Les députés de la France Insoumise la voteront. Les socialistes, tout comme les députés Front National, font aussi le forcing et laissent planer la menace de vote de cette censure. Notamment les socialistes qui font monter les enchères. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Il reste encore 3 points de crispation. Tout d'abord, l'aide médicale d'État, le dispositif qui permet de soigner gratuitement les immigrés en France. Ce sujet risque de déchirer l'accord de non-censure avec les socialistes, selon le député macroniste Jean-René Cazeneuve.
C'est un des points difficiles. Effectivement, le Parti Socialiste aujourd'hui ne souhaite pas qu'il baisse. Les Républicains souhaitent qu'il baisse de manière très significative. J'espère qu'on trouvera un compromis.
Pour les socialistes, le compte n'y est toujours pas, confié un négociateur. Olivier Faure et ses troupes exigent de nouvelles concessions budgétaires, car François Bayrou a refusé l'augmentation du SMIC ou leur idée d'impôt sur la fortune non productive, c'est-à-dire les crypto-monnaies ou les biens dits précieux comme les voitures et les yachts. Enfin, le Rassemblement national fait aussi entendre sa voix. Le député Jean-Philippe Tanguy menace de voter la motion de censure si le gouvernement ne renonce pas à la hausse des prix de l'électricité.
Si les autres partis politiques estiment que c'est tout à fait normal que le prix du nucléaire de base passe de 40 à 70 euros, eh bien qu'ils aillent justifier auprès des industriels et des Français comment ils peuvent justifier une telle évolution du prix de base du nucléaire français. On parle de 70% de l'électricité.
À cette heure, la survie de François Bayrou reste encore très incertaine.
L'actualité en métropole est aussi marquée par cet accident d'un car scolaire en Eure-et-Loir, à Châteaudun. Le véhicule s'est retrouvé dans le fossé. Le choc a été violent et une adolescente de 15 ans est décédée. Une vingtaine d'autres enfants ont été blessés. Le test salivaire pratiqué sur le conducteur de 26 ans a révélé qu'il l'avait usé de stupéfiants. La plupart de ses élèves fréquentaient le lycée Émile Zola de Châteaudun. Leurs collègues sont sous le choc. Le reportage de Guillaume Dominguez.
Loin des habituels éclats de rire, des sorties de classe, les au revoir ce soir sont discrets. Certains se prennent dans les bras. Elliot et Thomas attendent sur le parking l'arrivée de leurs parents. L'annonce de la mort de Johanna a bouleversé l'établissement. Ils étaient en classe quand ils ont appris que l'un de leurs amis était dans ce bus.
On a pu voir l'état de son visage, tout ça. Et il était gravement blessé. Il avait de la terre, du sang sur le visage, tout ça. Et puis, surtout, ça a beaucoup tourné pendant la récréation. Quand j'ai vu le bus accidenté, je me suis dit que c'était quelque chose de fou quand même.
Et si Elliot semble avoir du mal à réaliser, Thomas, lui, est en colère.
C'est pas normal que ce soit ces personnes-là qui nous conduisent et puis qui veillent sur notre sécurité tous les jours. C'est les personnes qui nous amènent au lycée tous les jours, donc c'est vraiment choquant pour le coup, c'est pas normal. Ça me donne presque plus envie de prendre le bus, quoi. J'ai plus confiance maintenant.
Aucun élève ne prendra le bus pour rentrer chez lui ce soir. Tous les parents sont venus chercher leurs enfants devant le lycée, comme Aude, venue chercher sa fille en classe de seconde. Pour cette maman, l'idée qu'un chauffeur puisse être positif aux stupéfiants est insupportable.
C'est grave parce que finalement, on se dit soit il l'a pris le matin, soit ils peuvent picoler. Faudrait comme un éthylotest pour stupéfiants et comme l'alcool, ouais. Ça éviterait les accidents, finalement. Que nos enfants, ils arrivent au collège, à l'école, on vit quoi.
Et sur le secteur de Châteaudun, ce sont au total 4000 élèves qui prennent les ramassages scolaires tous les jours.
L'actualité à l'étranger est elle aussi marquée par un tragique accident. Un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne au-dessus de Washington. Les 64 passagers de l'avion et les 3 personnes à bord de l'hélicoptère militaire ont toutes péri. Les contrôleurs aériens de l'aéroport de Washington ont essayé d'éviter l'accident, mais ils ont assisté au crash en direct.
Équipage PAT-25, vous voyez l'avion ? PAT-25, vous passez bien derrière l'avion ? Équipage PAT-25, répondez. Oh mon Dieu, vous avez vu ça ?
Les deux appareils sont donc entrés en collision et se sont ensuite abîmés dans le Potomac, la rivière qui traverse Washington. C'est une tragédie qui pose question, a réagi le président américain Donald Trump, car l'hélicoptère n'a essayé de changer de trajectoire qu'au tout dernier moment. Il a donc exigé des réponses sur les conditions du crash. En Suède, il avait fait parler de lui en 2023 en profanant des Corans, ce qui avait déclenché des vagues de colère dans les pays musulmans. Le militant irakien Salwan Momika a été tué par balle chez lui dans la banlieue de Stockholm. Caroline Baudry pour Europe 1.
Salwan Momika est en plein direct sur les réseaux sociaux lorsqu'il est tué par balle. 5 personnes ont été interpellées et les services de sécurité suédois sont profondément impliqués, dit le Premier ministre, car il existe un risque de lien avec une puissance étrangère. La mort de Momika est une menace pour la démocratie libre, ajoute le gouvernement. En 2023, ce réfugié irakien de confession chrétienne piétine un exemplaire du Coran, glisse du bacon et brûle des pages devant une mosquée de Stockholm. Il répète ensuite l'opération devant l'ambassade de son pays d'origine. Le tout autorisé par la police au nom de la liberté d'expression. Résultat, l'ambassadrice suédoise en Irak est expulsée, le bâtiment sur place attaqué. Le royaume scandinave s'attire les foudres de pays musulmans. La Turquie bloque son adhésion à l'OTAN. Ni les menaces contre sa personne, ni celles contre la Suède n'ont arrêté cet homme qui réclamait l'interdiction du Coran, un livre dangereux selon lui. Accusé d'incitation à la haine, il attendait que la justice se prononce.
Il est 11h50, une nouvelle et dernière pause dans ce journal. C'est ensuite l'actualité sportive et on retrouvera le magazine Transparence.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Maman, papa, qui habite
préparent déjà la rentrée en mode pouvoir d'achat. Des t-shirts unis en 6 coloris à seulement 390 francs. Des shorts hyper confortables à 690 francs seulement. Stylé! C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. N'attendez plus, rendez-vous en magasin ou commandez sur kiabi.nc.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com. Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout, chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile, energy lives here.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 routes de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
À la rentrée des classes, on a tous un peu la tête ailleurs et le budget pas au meilleur de sa forme. Alors imaginez, cette année, jusqu'au 16 février, Gémeaux vous propose un t-shirt ou un débardeur pour 10 francs. En effet, pour l'achat d'un short ou d'un bermuda en 4-12 ans, le t-shirt ou le débardeur est à 10 francs seulement.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Voir conditions en magasin sur article signalé dans la limite des stocks disponibles.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive en retour, Jean-François Baudin et Lionel Sabot.
Et on va ouvrir cette page sport avec du handball et cette grosse, très grosse désillusion pour l'équipe de France au championnat du monde. Lionel, ce matin à Zagreb, l'équipe de France s'est inclinée en demi-finale face au pays hôte, la Croatie.
Oui, et c'est une nouvelle très grosse désillusion pour les Bleus, quelques mois seulement après une défaite en finale des JO, c'était à Paris. Alors ce matin, en demi-finale de ce mondial 2025, l'équipe de France affrontait la Croatie, rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance de feu. À Zagreb, la capitale de la Croatie, une rencontre que les Bleus, pourtant habitués à ces grands rendez-vous internationaux, n'ont pas pris par le bon bout du tout. Très rapidement menés au score, les Bleus sont totalement passés à côté, notamment de leur première mi-temps. À la pause, score sans appel en faveur des Croates qui menaient 18 à 11. En seconde période, les Bleus se sont un peu refait la cerise, mais le mal était déjà fait. Jamais ils n'ont pu recoller au score. Au final, l'équipe de France s'incline 31-28. C'est donc la Croatie qui jouera la finale de ce mondial. Les Croates qui connaissent leur adversaire demain matin pour nous. La seconde demi-finale verra une confrontation entre le Danemark et le Portugal. La finale se jouera lundi matin pour nous. L'équipe de France, elle jouera le match pour la troisième place, la consolation. Ce sera dimanche matin.
Et puis on passe au football avec la fin ce matin de la première phase de Ligue Europa. Il y avait deux clubs français sur les pelouses européennes, Lyon et Nice.
Et pas de surprise pour les Lyonnais et les Niçois. Les Lyonnais joueront bien les huitièmes de finale. Les Niçois, eux, quittent la compétition. Ce matin, devant leur public, les Gones ont assuré leur qualification directe pour les huitièmes de finale, malgré un match nul un peu partout face aux Bulgares de Ludogorets. Les Lyonnais terminent sixième du classement général de cette première phase de la compétition. En huitièmes de finale, ils affronteront au choix soit les Grecs du PAOK Salonique, soit les Belges de l'Union Saint-Gilloise, soit les Roumains du Steaua Bucarest, soit les Hollandais de l'Ajax d'Amsterdam. De son côté, à Nice, qui n'attendait plus quoi que ce soit et quoi qu'il arrive ce matin dans cette Europa League, Nice a terminé sa campagne européenne sur un match nul, un but partout devant leur public, à peine 10 000 spectateurs. Nice et les Norvégiens de Glim se sont donc séparés sur un nul. Nice qui termine 35e avant-dernier de cette première phase de la Ligue Europa. Précisons que la Lazio de Rome, l'Atlético Bilbao, Manchester United, Tottenham, l'Eintracht Francfort, Lyon, l'Olympiakos et les Glasgow Rangers se sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale.
Et puis on va terminer avec un mot de golf pour parler du français. C'est Mathieu Pavon qui tient son rang lors du premier tour du tournoi AT&T de Pebble Beach en Californie.
Ouais, le tournoi PGA de Pebble Beach qui est l'un des plus grands tournois de la saison de golf. On se souvient que l'an dernier, après être devenu le tout premier français à remporter un tournoi sur la PGA, Mathieu Pavon avait pris la troisième place de ce tournoi qui se joue en Californie. Alors à l'issue du premier tour qui était disputé cette nuit pour nous, Mathieu Pavon a rendu une carte de 68, 4 coups sous le par. Pavon qui est à 4 coups du leader, l'américain Russell Henley, qui a signé une très belle carte, un 64, 8 coups sous le par. Notez que lors de cette première journée de compétition, Rory McIlroy a signé un trou en un. Écoutez bien, c'est le troisième seulement depuis qu'il est professionnel, le deuxième sur le PGA Tour.